RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
François Giuseppi et Tony Parker.
Il est là, bien présent, comme tous les lundis. Bonsoir, bienvenue dans ce Tipeee Show et bonsoir, monsieur Parker.
Bonsoir, ça va?
Très bien, et toi-même? Très peu entouré ce soir, puisque ni Pierre Dorian n'est là, ni Jacques Monclar.
Ils partent en vacances.
C'est pas beau.
Ils partent en vacances, les gars.
Tu les as tous virés parce que tu as fait la grosse annonce la semaine dernière, c'est ça?
Pas du tout. Jacques, il est ici à San Antonio, il est en vacances ici.
Il profite, il est à
côté de moi, je le laisse se reposer.
Oui, il en a bien besoin, c'est vrai. Il a plus besoin de vacances que nous. Ce Tipeee Show, donc, comme tous les lundis, 21h, 22h sur RMC, vous l'avez compris, Tony en pleine forme, jusqu'à 22h, avec du basket au programme, puisque Céline Dumerc et Jérémy Leloup seront avec nous, le joueur de Strasbourg qui brille sous les ordres de Vincent Collet, et Céline Dumerc qui a annoncé qu'elle quittait son club de toujours, à savoir Bourges. Elle nous dira où elle va, c'est dans quelques instants dans ce Tipeee Show. Voilà pour le programme basket, Jevry Zeman pour le judo, puisqu'on sort d'un gros tournoi de préparation pour les Jeux Olympiques, c'était le Paris Grand Slam, l'un des top tournois en judo. Jevry Zeman, la judokate qui l'a gagné, sera avec nous dans ce Tipeee Show, tout comme le finaliste du tournoi de l'Open Sud de France, c'était à Montpellier, puisque Paul-Henri Mathieu sera avec nous. Il a perdu en finale face à Richard Gasquet, lui aussi, eh bien, il a certainement dans un coin de sa tête peut-être les Jeux Olympiques en ligne de mire. Voilà pour le programme de ce Tipeee Show. Nous vous attendons bien sûr, comme tous les lundis jusqu'à 22h, 32-16, le hashtag RMC Live pour les réseaux sociaux, pour venir commenter cette émission jusqu'à 22h. Le programme est complet, le programme est dense et il y a également du foot dans ce Tipeee Show. Le Havre-Dijon, c'est en cours avec Christophe Lécuyer. Salut Christophe.
Salut François, bonsoir Tony. Toujours ce score de 0-0. Il reste 12 minutes à jouer dans cette première période, des conditions de jeu très compliquées. On a eu droit au déluge tout à l'heure, mais malgré cela, eh bien les conditions de jeu restent quand même correctes ce soir sur la pelouse en tout cas, et le match est ouvert avec tout à l'heure une occasion de Duhamel pour les Havrais. Aussitôt la réponse dijonnaise avec la frappe de Samaritano et le portier normand Fabien Farnol sauvé par son poteau. Un match assez ouvert donc, avec pas mal d'occasions. Pour l'instant il ne manque que les buts ici au Havre. Il reste 12 minutes à jouer dans cette première période et le score est donc toujours de 0-0.
Allez, c'est parti, les coulisses de la saison de Tony avec les Spurs, c'est tout de suite.
RMC, le Tony Parker Show.
Avant de parler de l'actu des Spurs et de la semaine de San Antonio, Tony, peut-être retour sur ce qui s'est passé encore ce matin dans les colonnes du journal L'Équipe. Tu nous as rassuré, tu seras bien au TQO avec les Bleus et au JO en cas de qualification. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas forcément lu les journaux ce matin, nous expliquer le pourquoi du comment de cette décision qui rassure un peu tout le monde?
Non, mais après ce qui s'est passé la semaine dernière, je pensais pas que ça allait faire un effet médiatique comme ça par rapport à l'annonce de mon deuxième enfant. Et donc je voulais juste voilà rassurer tout le monde et donc avec cette interview, je pense que j'ai bien expliqué en fait tout ce qui s'est passé. Et donc je serai bien là avec les Bleus au TQO et j'espère au JO si on se qualifie.
Il y a beaucoup de messages sur l'hashtag RMC Live, mais depuis toute la semaine vraiment par rapport à ton annonce, cette réflexion, elle a été très longue pour toi, très dure à prendre cette décision au final.
Non, c'est juste que je voulais bien parler avec ma femme et qu'on prenne la décision à deux, parce que c'est quand même un sacrifice pour elle. Et donc après une semaine de réflexion, voilà, on sait de toute façon mon amour pour le maillot, mon amour pour l'équipe de France. Et donc maintenant j'ai envie de justement faire les deux, être là pour la naissance et qualifier les Bleus. Et j'espère voilà ramener une belle médaille pour mes deux fils. Et voilà, c'est une motivation en plus. Et j'espère voilà, terminer ma carrière en équipe de France en beauté.
L'idée, oui, voilà, c'est ça, c'est de terminer sur une bonne note et pas se retrouver avec ce match pour le bronze à l'Euro en septembre dernier qui aurait pu être potentiellement ton dernier match.
C'est pas faux, mais bon, ça sera pas le cas. Donc maintenant, je suis content et j'ai hâte à cette compétition. Ça va être sympa d'aller à Manille. Je suis jamais allé en plus aux Philippines et donc ça va être sympa d'aller là-bas.
Ça, c'est le point positif et on en est très content. Alors, si on enchaîne avec ce qui s'est passé cette semaine en NBA avec les Spurs, 4 matchs, 4 victoires, 100%. C'est marrant parce que, mis à part la semaine dernière où on était en train de débriefer Golden State, finalement, bah, le train-train est revenu. Vous gagnez tous vos matchs sans trop de difficultés, ou presque. Je dis ou presque.
Ouais, bah je t'avoue que c'était une bonne semaine. On a fait un gros match à Dallas. C'était vraiment une grosse victoire parce que c'est jamais facile de gagner là-bas et on a vraiment dominé. Après contre les Lakers, c'était vraiment une soirée incroyable. La petite vidéo de présentation avant pour Kobe, ça m'a donné un peu les frissons quand même. C'est en fait en voyant sa carrière, c'est comme si je revoyais un peu aussi ma carrière parce qu'on a commencé presque en même temps quoi. Et lui, il a commencé en 97, moi j'ai commencé en 2001. Et là, voilà, la rivalité Spurs-Lakers, elle était quand même incroyable. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit dans ses interviews. Il a dit que les Spurs, on l'a aidé à devenir meilleur, à avoir, tu sais, à augmenter son niveau, parce qu'il voulait justement nous battre. Et c'est vraiment, voilà, on s'est aidé entre nous, quoi, à devenir meilleur. Et chaque année, c'était soit les Spurs, soit les Lakers qui gagnaient un titre, parce que t'as quand même 5 titres pour les Lakers, 5 titres pour les Spurs. Et donc une grosse domination de ces deux franchises là et de voir tout notre public chanter Kobe après la vidéo et je trouve ça voilà génial. C'était beaucoup de respect par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est quand même 20 ans en NBA, c'est une légende vivante et c'était sympa de jouer voilà une dernière fois contre lui. C'était un super match.
Tony, on va te retrouver dans un instant, le temps bien évidemment qu'on rétablisse la liaison avec San Antonio, le temps pour moi de vous rappeler qu'on est bien dans le Tipeee Show, que ça se passe du coup en direct, vous l'avez compris, avec Tony Parker qui va revenir dans un instant, qui nous parlait de Kobe Bryant justement et de la cérémonie qui a eu lieu juste avant la rencontre face aux Spurs. C'était Spurs Lakers. D'ailleurs, vous allez l'entendre dans quelques instants, la fameuse petite cérémonie dont parle Tony. Voilà comment ça se passe. Il y a la présentation des Lakers et là, la salle s'éteint complètement. Pendant 3 minutes, scène vidéo avec un petit film diffusé sur l'écran géant de la salle de San Antonio. Et au milieu, seul, assis, Kobe Bryant qui s'apprête à se lever pour être présenté au public. Avec Tony qui est revenu, on l'entend, hein, Tony. Grosse ambiance parce que ça a été des grosses batailles également entre vous dans cette conférence Ouest, comme tu l'as dit. Il y a des titres partout.
Non, c'est ambiance de malade. C'était vraiment vraiment fort. Et franchement, le public de San Antonio, j'ai vraiment bien aimé comment ils ont réagi et de scander son nom. Et voilà, ça montre tout le respect qu'on a pour sa carrière. C'est quand même 20 ans NBA, légende vivante. C'était sympa de jouer une dernière fois contre lui à San Antonio. Ce match, il était super en plus.
Ouais, justement, hein, gros match de Kobe, gros match au final puisque la victoire n'est que de 4 points pour les Spurs, 106 à 102. Et Nicolas, tu as une question pour Tony au 32-16. Salut Nicolas.
Salut, bonsoir. Salut Joe, salut Tony. Il y a Jacques aussi, salut. Je crois, non ?
Jacques, il est en vacances. Il est au soleil.
Jacques, il est en vacances.
Mais il est pas loin.
Il était au match, d'ailleurs, je crois. J'ai pu voir qu'il était au match.
Tout à fait, sur les réseaux sociaux, absolument.
Voilà, exactement.
Alors, Nico, tu avais une question pour Tony, même s'il a en partie répondu.
Oui, il a en partie répondu. Mais bon, parce qu'en fait, moi, j'ai vu que vous étiez parlé un petit peu. Qu'est-ce que vous vous étiez dit, grosso modo. Puis j'ai vu que Pop avait rendu un bel hommage aussi. Mais bon... J'ai vu que vous étiez parlé un petit peu, donc là, sans être trop indiscret, voir ce que vous vous étiez dit, quoi, plus ou moins, quoi.
Bon, après, ça, c'est des discussions privées, mais bon, c'est... Non, moi, j'étais juste, voilà, content de jouer contre lui une dernière fois, ça, en ce moment, et ça a été un honneur de jouer contre lui. C'était le Michael Jordan de notre génération.
Ouais, c'est clair.
C'est bon pour toi, Nico ?
Ouais, c'est bon. Bah écoute, bonne continuation à Tony pour la suite de la saison. Et puis, j'espère retrouver une bonne rivalité avec les Lakers, peut-être à partir de l'année prochaine, sans Kobe, hélas. Mais espérons qu'il retrouve un peu plus des sommets. Parce que malgré que l'affiche soit assez déséquilibrée sur le papier, on avait eu un vrai match de basket et je trouvais ça quand même ça pas mal.
C'est clair. Merci Nico. À très bientôt.
De rien, merci. Salut les gars. Ciao.
Bonne soirée, comme tous les auditeurs d'RMC. Un petit mot d'ailleurs sur ce qu'a dit Kobe dans l'après-match. Il a également parlé de Kawhi. Pop lui a demandé de rester près de lui et de lui parler de temps en temps. Tu sens que Kobe peut apporter quelque chose à Kawhi Leonard, ton coéquipier ?
Oh, bien sûr. De toute façon, Kawhi, il fait une grosse saison cette année et il n'a pas de limite. Et donc, d'avoir des conseils d'un joueur comme Kobe Bryant, ça peut toujours aider.
Eh bien, écoute, en tout cas, on reviendra sur l'actu de la NBA en fin d'émission, juste avant 22h. Détour par la Ligue 2. Christophe Lécuyer, le match est toujours en cours. Le Havre-Dijon, Christophe.
Oui, il reste 4 minutes, très exactement, à jouer dans cette première période. Un match toujours aussi agréable, mais pour l'instant, eh bien, le Havre-Dijon sont toujours à égalité 0-0.
Merci Christophe, à tout de suite pour la suite du Tipeee Show Basket au programme avec la capitaine de l'équipe de France, Céline Dumerc, qui change de club. Elle passe de Bourges à Mont-de-Marsan, à Basketland plus précisément. Jérémy Leloup, l'ailier de Strasbourg, dans un instant également pour revenir sur la bonne perf du week-end en pro A de la SIG. Tout ça c'est dans un instant. Le Tipeee Show, c'est comme tous les lundis sur RMC jusqu'à 22h. À tout de suite.
Le plus grand show de basket est sur RMC. Le Tony Parker Show. RMC, le lundi, 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Le retour du Tipeee Show, ça continue jusqu'à 22h avec Tony Parker, sans Jacques Monclar, on le rappelle. Et dans un instant, Céline Dumerc qui a une nouvelle très importante à nous donner quant à la suite de sa carrière. Dans un instant donc le basket féminin, mais en cela des tours par le direct en cours, la Ligue 2, le football. Christophe Lécuyer, nouveau point, le Havre-Dijon, Christophe.
Oui, la dernière minute du temps réglementaire de cette première période, ce sont les Dijonais qui sont à l'attaque. Le score est toujours de 0-0. Les Havrais qui tout à l'heure ont réclamé un penalty pour une éventuelle faute sur Mathieu Duhamel. L'arbitre n'avait rien sifflé, il a pris la bonne décision car il n'y avait strictement rien. La défense havraise qui parvient à se dégager. 40 secondes encore dans le temps réglementaire de cette première période et toujours ce score nul et vierge donc ici au stade Océane entre le Havre et Dijon.
Allez, à tout à l'heure Christophe, tout de suite on parle basket.
RMC, le débrief basket.
Avec Tony, Céline Dumerc, la capitaine de l'équipe de France qui est avec nous et qui a donc tweeté, c'était dans la matinée, je cite, j'ai décidé de partir pour un nouveau challenge l'année prochaine. C'est avec beaucoup d'émotion que je quitte Bourges après 11 saisons. Bonsoir, mademoiselle Dumerc.
Bonsoir.
Salut Céline, ça va?
Salut Tipi, ça va?
Je t'avoue que je suis un peu étonné. Je suis content que tu viennes à l'antenne, parce que tu sais comment je te chambre à chaque fois avec Bourges. Et je t'avoue que là, j'étais un peu étonné. Alors, pourquoi ce choix alors? Pourquoi?
Bah, tout simplement, voilà. Je pense que j'arrive à un moment de ma carrière où il faut que je me projette un petit peu plus loin que mes dernières années sportives. Et voilà, je suis une fille du Sud-Ouest, donc effectivement, on n'oublie jamais ses racines. Et j'ai eu l'opportunité de peut-être partir sur un dernier projet sportif avec Basketland qui me fait rentrer un petit peu plus près de mes proches. Et donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai pris cette décision assez rapidement dans l'année, dans la saison, pour que justement, on ait le temps un petit peu de se retourner, de digérer la nouvelle, pour que justement, je puisse bien finir correctement mon année avec Bourges avant de repartir dans un nouveau projet avec Basketland.
Et donc tu as signé 2 ans à Basketland, donc derrière, on va dire, le challenge sportif, il y a aussi une reconversion au sein du club de prévu?
Exactement, voilà. C'est pas forcément au sein du club, mais en tout cas en accompagnement avec le club, pour voir un petit peu. C'est vrai que je suis assez indécise quant à mon futur dans ma reconversion professionnelle. Donc je pense que voilà, ils m'ont proposé de m'aider pour justement essayer de m'ouvrir un petit peu des portes, de m'ouvrir aussi les yeux sur qu'est-ce qui serait possible de faire dans ma carrière future. Donc effectivement, c'est un projet sportif pour 2 ans et un accompagnement quant à ma reconversion. Voilà, mais c'est effectivement, c'est quelque chose que voilà, ma vie, je la vois un peu dans le Sud-Ouest. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai choisi ce club-là aussi.
Donc, tu y penses depuis un moment. Tu l'as annoncé quand à tes coéquipières?
Je l'ai annoncé hier soir. Je savais que le communiqué allait partir ce matin. Je voulais leur annoncer moi personnellement et pas qu'elle apprenne via les réseaux sociaux. Donc, j'ai envoyé un petit message via notre groupe WhatsApp que l'on a histoire de voilà que le matin ça soit pas une bombe comme ça. Donc après c'est une décision que j'ai prise vraiment très très rapidement. Je suis en discussion depuis 2-3 semaines avec les clubs et j'ai pas voulu faire durer trop le choix, parce que de toute manière c'était un choix, donc je savais que j'allais laisser des choses en partant de Bourges et si je réfléchis je peux changer d'avis toutes les 5 minutes. Donc, il fallait que je sois sûr de moi. J'ai décidé
Mais c'est normal, hein. C'est
Bah toi aussi tu le sais, à un moment donné je sais que tu avais pensé à quitter San Antonio, c'est pas facile et donc des fois il faut savoir se décider, prendre la décision. Voilà, on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on va aller trouver ailleurs, mais voilà, je me sens animé par un désir de nouveau challenge, donc voilà, je suis vraiment ravi de partir sur un nouveau projet.
On est avec Céline Dumerc dans Tipeee Show sur RMC qui a donc annoncé ce matin qu'elle quittait Bourges pour aller à Basketland. Céline, ça c'est une petite question pour nos auditeurs qui suivent pas complètement de basket. Basketland, c'est un club des Landes. C'est pas genre Disneyland ou c'est pas un parc d'attraction. Hein. On est bien d'accord. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, elles évoluent à Mont-de-Marsan plus précisément. Donc voilà, ouais, c'est Basketland parce que à la base, elles étaient plutôt à Saint-Sever. Elles ont déménagé. Maintenant, elles jouent sur Mont-de-Marsan. Donc effectivement, c'est plus un département plutôt que voilà quelque chose en anglais. Ça s'écrit pas tout à fait pareil.
Et quand on t'écoute, le petit accent du Sud-Ouest, il est pas non plus étranger à cette destination pour ta fin de carrière.
Tout à fait. C'est vrai que je suis natif de Tarbes, des Hautes-Pyrénées, et c'est vrai que le Sud-Ouest, Basketland, c'est, enfin voilà, Mont-de-Marsan, c'est à peine à 1h30 de chez moi, donc effectivement, retrouver un petit peu, voilà, les gens qui parlent avec cet accent chantant, ça va me faire du bien aussi, quoi.
Tony, quand on entend Céline comme ça, on sent que c'est aussi le choix du cœur qui est important pour elle.
Non, mais c'est sûr, elle revient dans une région où elle a grandi et je pense que maintenant elle doit se sentir soulagée là maintenant que c'est officiel. Enfin, je sais pas ce que t'en penses Céline, mais tu dois être bien là maintenant.
Oui, tout à fait. Oui. Non, je voulais vraiment, voilà, que ça soit annoncé assez tôt, voilà, quitte à avoir un peu d'émotion là pendant ces quelques jours qui vont arriver. Mais au final, je préfère le faire maintenant. Et puis comme ça, je vais pouvoir me reconcentrer et repartir avec Bourges parce qu'on a des choses à aller finir, on a des choses à aller chercher avec Bourges. Et donc voilà, on aura le temps un petit peu de digérer la nouvelle. Et puis voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est jamais facile à annoncer, mais maintenant c'est fait, donc voilà, tout le monde peut digérer la nouvelle, quoi.
Bah, il reste plus qu'à partir sur un titre avec Bourges, ouais, ça serait bien.
Exactement, ouais, c'est petite, vraiment l'optique. Quoi.
Une petite qualif pour les JO aussi, hein, parce que ça arrive plus vite qu'on croit, ça aussi, hein.
Oui, non, c'est sûr. Ouais.
C'est en France.
Ouais. Non, voilà, c'est, je vais avoir une année assez chargée, mais justement, c'est ce pourquoi je fais du basket. Donc effectivement, il y a une fin d'année avec Bourges, et puis après derrière un été qui j'espère sera super chargé pour une qualif pour les JO avec une participation aux Jeux et puis derrière repartir sur un nouveau projet avec Basketland, quoi.
Merci Céline, future joueuse de Basketland dans les Landes. À Mont-de-Marsan.
Merci Céline, hein, merci d'être venue sur l'antenne, hein, merci.
Avec plaisir.
À bientôt, bonne fin de saison.
À très bientôt, ouais, pareillement.
Très bientôt, salut. Céline Dumerc, on suit bien évidemment comme l'ensemble de l'équipe de France Olympique en vue des Jeux Olympiques de Rio. Avant d'accueillir Jérémy Leloup, on va parler de la proie dans un instant, le Strasbourgeois détour par la Ligue 2, le football, le Havre-Dijon, nouveau point, Christophe Lécuyer.
Ouais, c'est la mi-temps ici, François, au stade Océane, on a vu 45 minutes de belle facture avec des occasions de part et d'autre, et cette première période qui s'est terminée sur une occasion havraise avec une frappe de la nouvelle recrue Thomas Ayas, une frappe de 30 mètres qui est passée juste à côté des buts de Baptiste René. Un match nul suffisant à la pause en tout cas pour permettre aux Dijonais de virer seul en tête au classement de Ligue 2. C'est donc la mi-temps sur ce score de 0-0.
Allez, comme promis, on parle de basket et de basket français, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais la proie continue. Et à 29 ans, il a joué au Mans, à Vichy, à Dijon. Il est depuis 2013 à Strasbourg, sous les ordres de quelqu'un que tu connais bien, Tony, puisque c'est Vincent Collet, l'entraîneur de Strasbourg. On n'en parle pas beaucoup, mais grosse saison également pour Strasbourg et pour son joueur à l'aile. Jérémy Leloup est avec toi dans ce Tipeee Show, Tony.
Ça va, Jérémy, tu vas bien?
Ouais, ça va, et toi?
Ça va. Bah merci hein, d'être avec nous. Hein. Je sais que t'es entre deux avions là. Je vais en Russie là contre Saratov. Grosse victoire. J'ai envie de dire ce week-end. Hein. C'est pas facile d'aller gagner à Gravelines. Hein. Vous êtes bien en ce moment.
Ouais, non, c'est vrai qu'on est vraiment bien en ce moment. Et c'est vrai que bon, malheureusement, on a gagné à l'ASVEL il y a 15 jours maintenant.
Ouais,
et,
vous en avez mis une bonne.
Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on a su le répéter à Gravelines, ce qui n'était pas facile dans ces moments-là. Donc tant mieux pour nous. C'est vrai qu'on est pas mal en ce moment.
Tu l'expliques comment justement cette bonne période-là?
Je pense que déjà le début de saison a été compliqué, le temps d'intégrer tous les nouveaux, le temps de, comme tu le sais, d'assimiler tout ce que peut demander Vincent, que ce soit en attaque ou en défense. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment donné, début décembre, on a commencé à vraiment être mieux, à jouer mieux tous ensemble, à mieux défendre. Et depuis ce moment-là, tout le monde a compris son rôle dans l'équipe et du coup, l'équipe tourne vraiment mieux. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base et qu'on continue à travailler pour continuer à jouer dans ce même rôle.
De ton côté, justement, sans faire de bruit, tu joues 30 minutes à Gravelines, tu mets 12 points, grosse victoire collective où tout le monde est un peu présent. Justement, ta relation avec Vincent Collet, elle est comment?
Bah, moi, c'est vrai que déjà, ce que propose Vincent en termes d'attaque et même son schéma défensif, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me convient parfaitement. L'exemple que j'ai, c'est sur les deux premiers mois de la saison, on n'a vraiment pas été bien tous ensemble avec l'équipe. On jouait pas bien et ça s'est vu au niveau de moi, mes performances personnelles. J'étais pas dans les meilleures conditions. Et depuis deux mois maintenant, ça tourne vraiment bien. Et c'est vrai que moi, ça fait deux mois où je tourne vraiment mieux. Donc voilà. Et puis c'est vrai que Vincent, c'est le coach qui m'a fait confiance en premier, qui m'a fait signer mon premier contrat pro au Mans. Donc du coup, voilà, on a une relation assez spéciale. Ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Donc pourvu que ça dure encore quelques années.
Et qu'est-ce que tu penses alors de Rodrigue Beaubois alors? Tu trouves que c'est une bonne addition pour votre équipe?
Ouais, c'est une bonne addition parce que c'est un joueur qui sait créer son tir quand il le souhaite. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a manqué les deux dernières années, je pense, pour tuer des matchs ou gagner des matchs tout simplement. Donc le début de saison est un petit peu compliqué par rapport à tout ça, le temps d'une Rodrigue arrive à se mettre, trouve son rôle dans l'équipe. Mais c'est vrai que quand on a besoin de lui dans le Money Time, il répond souvent présent. Donc c'est ce qu'on recherchait, c'est pour ça qu'il est venu à Strasbourg et c'est pour ça que Vincent voulait un joueur comme ça.
Jérémy Leloulier de Strasbourg qui jouera en Russie mercredi contre Saratov en Eurocup. On parle bien évidemment de basket français. Jérémy, peut-être un petit mot sur ce qui s'est passé l'été dernier pour toi, puisque tu faisais partie de la préliste de Vincent Collet pour cette fois l'équipe de France qui préparait l'Euro. J'imagine qu'en étant sous les ordres de Vincent Collet, avec la saison que tu fais, avec les échéances qui arrivent aussi, est-ce que ça te trotte un petit peu dans la tête, le TQO, les éventuels JO, faire une prépa, quelque chose avec les Bleus?
Bah c'est vrai que c'est quelque chose que je tiens en fil rouge tout au long de l'année. J'essaye de pas me mettre de pression par rapport à ça. C'est surtout j'essaye de faire les meilleures performances possibles. Et c'est vrai que cet été peut y avoir peut-être une petite ouverture par rapport au problème des contrats NBA qu'il va y avoir pour les joueurs. Donc ce que j'aimerais bien, c'est essayer d'accrocher au moins un stage déjà. Ce serait déjà un palier de plus par rapport à l'année dernière. Donc j'espère de tout cœur y arriver. Donc j'essaie de travailler dans ce sens.
Ah ben en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Jérémy Leloup, l'ailier de Strasbourg, d'être venu dans ce Tipeee Show.
Merci à vous.
Merci Jérémy, à très bientôt. Hein. Bonne chance contre Saratov.
Ouais, merci,
à
bonne continuation.
Merci, ouais, merci Jérémy, à très bientôt et bonne saison avec la SIG comme Vincent Collet, l'ensemble d'ailleurs des équipes de Pro. Dans un instant, le Tipeee Show qui continue. Bien sûr, on parlera des JO avec Pascal Martineau Lagarde, la flèche, le hurdleur, le 110 mètres haies, avec sa saison qui va commencer d'abord en salle, puis ensuite en plein air pour l'athlète français Gévry Zeman, puisqu'on reviendra également sur le tournoi international de judo, le Paris Grand Slam qu'elle a gagné. C'était ce week-end. Gévry Zeman qui prépare elle aussi les Jeux Olympiques dans une catégorie qui est hautement relevée en France. Elles sont deux, il n'y a qu'un billet pour Rio. On en parle dans un instant avec vous au 32-16. Le hashtag RMC Live, bien évidemment. Nous sommes ensemble dans ce Tipeee Show sur RMC jusqu'à 22h, comme tous les lundis.
RMC, 21h, 22h. Le Tony Parker Show. RMC, jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Parker again. Oh my. François Giuseppi et Tony Parker.
Avec Tony Parker depuis San Antonio, sans Jacques Monclar pour cette semaine. Et dans quelques instants, on parle Rio, bien évidemment, avec Pascal Martino Lagarde et Gévrise Eman, de l'athlétisme et du judo au programme dans ce Tipeee Show. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez interagir dans l'émission, le hashtag RMC Live, et pourquoi pas venir commenter ce qui s'est passé la nuit dernière, puisque l'événement aux États-Unis, c'était aussi le Super Bowl. Il n'y a pas que la saison NBA, le Super Bowl. On en parle avant 22h. Mais comme promis, direction Rio.
RMC France Olympique.
Alors il n'y est pas encore tout à fait à Rio, nous n'y sommes pas encore dans ce Tipeee Show, mais nous sommes avec le recordman de France du 110 mètres haies, c'est de l'athlétisme, 12 secondes 95, quatrième des mondiaux en plein air, c'était à Pékin, et surtout la saison d'athlétisme qui commence d'abord avec de la salle puis le plein air. Tony, nous sommes avec Pascal Martino Lagarde, un des habitués de ce Tipeee Show dans cette émission.
Bonjour à tous, salut Pascal, ça va, tu vas bien?
Ça va bien, vous?
Ça va, en pleine forme. Hein. Sympa.
Ouais, moi aussi.
T'es venu sur le show. Hein. Bah, comment ça se passe alors ta saison, pour la saison hiver, là, t'as prévu quoi? Saison sale?
Déjà pour dans un premier temps s'entraîner, ça va être un peu écourté la saison en salle par rapport à d'habitude. Je vais pas vous mentir, je suis un compétiteur et j'adore la compétition. Mais cette année, je vais décider de faire un peu moins de compétition parce que l'année dernière, j'ai enchaîné les blessures et ça m'a pas réussi. Donc seulement un meeting au programme le 21 février à Metz, les championnats de France et si je cours vite, les championnats du monde.
Et justement, le championnat du monde important, il va pour savoir il va pour quelle optique en fait.
Alors avec les coachs. Déjà la condition pour y aller, on a un peu discuté de ça. C'était comme là les championnats du monde, ils sont un peu plus tard que d'habitude. Généralement c'est début mars, alors que là c'est milieu fin mars. Faudra bien réfléchir à que ça empiète pas sur la préparation des Jeux Olympiques. Donc comme le championnat est tard, faut bien réfléchir si on y va ou pas. Et si on y va, effectivement on n'y va pas pour rien. Donc ça va se décider au championnat de France en fait. On s'est dit dans les grandes lignes. Si je faisais quelque chose à la hauteur de mon record personnel qui est de 7,45, si je faisais en gros moins de 7,50, j'y vais. Si je fais bien au-dessus, c'est pas la peine. Parce qu'il faut vraiment y aller genre avec objectif médaille ou sinon ça sera moins rentable, si je puis dire, de d'y aller et de risquer d'empiéter sur la saison active.
C'est clair, hein, parce que c'est quand même 16 heures de vol, 9 heures de décalage horaire.
Pour le décalage,
ça n'a pas intérêt à se porter.
C'est clair. Mais je suis confiant et j'adore la compétition, donc j'aimerais quand même y aller. Parce que du fait que je vais faire un seul meeting, j'aimerais quand même aller confirmer ma préparation hivernale en finissant par un beau championnat.
Et justement, le fait qu'on soit en année olympique, t'as changé des choses dans ta préparation ?
J'ai décidé de moins courir. Sinon, après, changer des trucs, non. Parce que en fait, je suis pas convaincu que... Quand on a une méthode qui marche, c'est pas bien d'essayer des nouveaux trucs. On va dire ça comme ça. Si on a un train régulier qui fonctionne bien, vaut mieux garder ces choses-là. J'ai changé de coach l'année dernière. Cette année, on a bien appris qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qui provoque les blessures, qu'est-ce qui. On a mis Lego par Lego, on brique par brique, on construit nos entraînements et là faut pas changer justement. On a trouvé la recette qui conviendra et faut l'appliquer, faut pas la changer, on va travailler de cette manière. Mais par contre le gros changement ça va être juste courir beaucoup moins. C'est-à-dire que cet été aussi c'est la même chose, hein. Ce sera les grosses Diamond League, ce sera les meetings en France intéressants, mais j'irai par exemple la Diamond League, il y en a une à Shanghai en début d'année par exemple, c'est super loin et si j'y vais, il faudra vraiment bien que je réfléchisse si c'est en concordance avec l'entraînement. C'est à l'autre bout du monde et voilà, courir moins, garder la même méthode d'entraînement, je pense que ce sera le bon cocktail.
Et justement, j'ai vu que tu étais avec toute l'équipe de France en Afrique du Sud en janvier. Comment s'est passé ce stage?
Très chaud. Et maintenant que je suis en France, il fait très froid. Ça s'est super bien passé. En fait, l'équipe de France, Medibala en l'occurrence, on a trouvé cet endroit. Et je pense que c'est l'un des rendez-vous chaque année. Si on fait la prépa là-bas, on ressort de là surpuissant. On a vu, je sais pas si t'as vu un peu les résultats, par exemple, de Florian Gay, qui a fait une superbe entrée sur 200 mètres en salle, là, il y a pas longtemps. Enfin bref, quand on sort de ce stage, on se sent hyper bien. On a des conditions extrêmement bien. Je vous rappelle qu'on était entre 35 et 40 degrés pendant le stage. On était dans des infrastructures dignes de l'INSEP, hein. On était dans vraiment un truc très, très bien. Et mais c'est le retour qui fait chier, quoi. Le retour dans le froid, ça fait mal. Je te cache pas que ça fait mal.
En tout cas, ça refaire les liens cette année olympique. On voit qu'il y a un vrai esprit d'équipe dans cette équipe de France. Hein.
Ouais, on a fait un des gros rassemblements. On a essayé d'inviter beaucoup de monde. Quand je dis on, je parle de la fédération. Elle met vraiment un accent à vouloir inviter des athlètes qu'on se rassemble. Et même, ça fait plaisir. À chaque fois, ça nous rapproche. Et après, quand on se retrouve en championnat, le but, bien sûr, c'est ça de faire une grosse tache bleue dans les tribunes et encourager les potes. Et ça fera chaud au cœur.
Ah bah c'est génial. En tout cas, au niveau du stand 10 mètres haies en France, il y aura une grosse concurrence. Ça va être la baston pour gagner son billet olympique. Hein. Vous étiez 3 en finale des championnats du monde, en fait.
Ouais, bah, imagine, l'année dernière, à Pékin, on avait 4 tickets. On avait 4 tickets d'entrée parce que, en 2014, j'avais réussi à gagner à la Diamond League. Et en gagnant à la Diamond League, on gagne un ticket d'office pour participer au championnat du monde. Là, cette année, on n'en a pas. Là, c'est 3 places et pas une de plus. Donc là, on va se battre pour l'avoir. On a beaucoup de talents à droite, à gauche. On est dans la discipline... c'est simple. En France, la perche et le 110 mètres haies, c'est une discipline où il faut s'arracher la gueule pour faire passer partie de l'équipe de France. Parce que la concurrence interne, elle est énorme.
Elle est rude, ouais.
Elle est vraiment énorme. Là, même moi, hein, je suis même pas sûr d'avoir mon ticket pour partir. Il faudra vraiment que... La preuve, je suis pas champion de France en 2015. Pour vous dire, du haut de mon record de France, je suis pas champion de France. Donc vraiment, la concurrence, elle est telle que vraiment, faudra vraiment assurer toute son année pour gagner son ticket pour Rio.
En tout cas, j'espère qu'il sera à Rio avec moi. Alors, j'espère qu'on va tous les deux se qualifier.
Ah, j'espère aussi.
Voilà, c'est ça.
Merci Pascal, merci d'être venu sur le Tipi Show. Merci, à très bientôt.
Bah, à bientôt. Appelle quand tu veux.
Merci Pascal. Pascal Martineau Lagarde qui prépare donc sa saison olympique le 110 mètres haies avec, on le rappelle, le record de France pour Pascal, 12,95. Alors elle n'a pas de record de France, mais elle a un sacré palmarès. On passe du coq à l'âne dans un instant puisque Gévry Zeman, la judocate, sera avec nous dans un instant. Mais avant cela, la Ligue 2, Christophe Lécuyer, avant de parler judo, Le Havre-Dijon, Christophe.
Ah oui, François, Tony, c'est reparti ici depuis 3 minutes au stade Océane. Pas de changement à la pause. Et donc toujours ce score de 0-0 entre Le Havre et Dijon.
Ok, à tout de suite. Donc, comme promis, nous sommes avec Gévry Zeman, 33 ans, triple championne du monde de judo 2011, 2013, 2015, 4 fois championne d'Europe, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres et 3e au tournoi de Paris. C'était ce week-end, Tony, un sacré palmarès. Et là aussi, eh bien, c'est la grosse bagarre pour aller aux Jeux Olympiques de Rio en judo. Et on est très heureux.
La concurrence va être rude, c'est sûr.
Et on est très heureux d'accueillir donc Gévry Zeman. Bonsoir, Gévry.
Bonsoir.
Salut Gévry, c'est Tony, ça va ?
Salut, ça va Tony ?
Ben ça va bien, hein. Comment ça va toi au lendemain du tournoi de Paris alors ?
Ben écoute, ça va, après une demi-journée de repos et ensuite un entraînement, donc en mode récupération, mais ça va.
Et justement, après une journée de compétition, on est comment ? On est broyé physiquement, fatigué mentalement ?
Oui, en fait, pour dire la vérité, j'ai mal partout. J'ai mal partout, donc obligé d'aller faire un petit footing ce matin. Et, et après, j'ai eu entraînement cet après-midi, mais c'était tranquille, quoi. Vu que j'ai combattu hier, voilà, faut pas non plus trop traumatiser le corps.
Et bon, j'imagine que 3e à Paris, c'était peut-être pas le résultat que tu espérais, mais ça va, t'es pas trop déçu ?
Non, ça va, je suis content. De toute façon, je voulais vraiment, c'est vrai que j'avais à cœur de remporter cette compétition, ce tournoi. Et en plus, je pense que c'est de bon augure pour le début de saison, en vue des Jeux de Rio. Et c'est bien d'être présent. Et de toute façon, toi-même, je sais que dans une saison olympique, eh ben, il faut prendre toutes les médailles voilà, qui sont à prendre.
Ça, c'est chiant. Voilà. Hein. Et donc, si je comprends bien, t'es bon, la triple championne du monde, 4 fois championne d'Europe. Mais la qualif pour Rio, ça va jouer entre toi et Fanny. Donc, enfin, la concurrence, elle est rude. Hein, ça va être dur.
C'est vrai que c'est une catégorie qui est en concurrence. Bon, après, j'ai quand même pas mal d'avance. Maintenant, faut pas que je me repose sur mes lauriers, bien au contraire. Et c'est vrai qu'avec Fanny, on se bouscule l'une et l'autre. Bah, tout ça pour pouvoir, c'est-à-dire ça nous tire vers le haut, c'est-à-dire la catégorie vers le haut, quoi. Donc c'est que du bonus.
On est avec Gévry Zeman sur RMC dans ce Tipi Show, avec donc Gévry qui combat face à une autre française, puisque vous êtes deux. Il n'y a qu'une place dans ta catégorie, Gévry, pour les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment ça se passe cette saison entre Fanny et Estelle Pozdiv, donc qui est ta partenaire, mais aussi ta concurrente pour les Jeux. Et toi, comment ça se passe? C'est quoi? C'est un ranking par rapport aux résultats de l'année? C'est sur plusieurs tournois? Comment ça se passe?
Bah, en fait, il faut savoir, bon, c'est vrai que le championnat du monde qui a eu lieu à Astana en août dernier était très important. Donc, en tant que championne du monde en titre, on peut dire que j'ai déjà un pied à Rio. Maintenant, avec Fanny, c'est vrai que on ne sait pas encore qui va partir. Et il faut effectivement être dans les 14 premiers de la fameuse ranking list olympique. Et ensuite, il y a un comité de sélection qui aura lieu au mois de mai et qui va décider dans chaque catégorie de poids qui va partir. Voilà.
Ok, mais tu seras fixé quand alors? C'est quand que tu seras fixé?
Ben, on sera fixé, tout le monde sera fixé au mois de mai.
Au mois de mai.
Au mois de mai, après le dernier gros tournoi qui est le Master.
C'est ça, d'accord. Et Rio, voilà. Donc ça sera, si t'es qualifié, ça sera la dernière grande compétition pour toi.
Ce sera ma dernière grande compétition, oui, tout à fait. J'aurais assez donné.
Ouais, j'avoue, non, mais ça me va. Et après, ta vie, tu la vois comment? Alors, t'as déjà pensé à la reconversion?
Oui, j'ai déjà pensé à la reconversion. Moi, je suis professeur de sport. Donc là, j'ai un poste réservé. Ouais. Donc là, j'ai un poste réservé INSEP, où je suis tutrice au BP Judo, notamment. Et ensuite, je vais sûrement intégrer les cadres de la Fédération Française de Judo pour pouvoir donner un petit coup de pouce quand même.
Et
apporter un peu de mon expérience. Et après, il y a d'autres choses auxquelles aussi je suis en train de réfléchir pour... Voilà, dans lesquels j'aimerais bien évoluer, on va voir comment ça va se passer.
Je suis curieux de la relation que tu as avec Fanny Estelle Potsvit, du coup, puisque vous êtes deux pour une seule place à Rio. Comment ça se passe, que ce soit à l'entraînement ou en compétition et surtout en dehors?
Non, mais ça se passe que moi je fais ce que j'ai à faire et elle aussi, en fait. C'est tout simplement comme ça. Après, effectivement, à l'entraînement, bon, on s'entraîne dans un collectif, donc nous sommes ensemble, mais c'est une concurrence qui est saine. Et voilà, il n'y a aucune animosité entre elle et moi.
Ok, ok.
C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ouais. Ouais. Tu as eu ta question.
Oui, mais au Sotogari, comme il faut, tranquille. Exactement.
Merci, Gévrisa. Merci beaucoup de Tipeee Show. À très bientôt.
De rien, merci beaucoup. À bientôt.
Merci à Gévrisaman d'être venu dans ce Tipeee Show sur RMC, la radio officielle de l'équipe de France Olympique. Et on suit bien évidemment tous les sports sur RMC en année olympique, encore plus que d'habitude, avec Gévrisaman et tous les judokas, puisqu'on était d'ailleurs tout le week-end à l'Accor Arena pour ce Paris Grand Slam qui a vu la victoire de nombreux Français et Françaises. Dans un instant, on continue à parler basket. Cette fois, on reviendra sur la planète NBA. Et on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live pour parler, pourquoi pas, également de l'actu américaine avec le Super Bowl qui a vu la victoire des Broncos de Denver. C'était cette nuit face aux Panthers de Carolina. C'est dans un instant dans Tipeee Show. Mais avant cela, donc, retour avec Christophe Lécuyer. Christophe, Le Havre-Dijon, ça continue?
Ça continue, effectivement. 9 minutes de jeu déjà en seconde période et toujours ce score de 0-0. Là, ce sont les Dijonais qui vont essayer de se porter à l'attaque. Eux qui, tout à l'heure, ont réussi une belle combinaison avec Diony, avec Tavares. Mais la défense havraise a réussi à s'en sortir sans trop de dommages. On a assisté en tout cas à une première période assez ouverte avec pas mal d'occasions. Il ne manque toujours que les buts ici ce soir dans la fraîcheur normande. 0-0 entre Le Havre et Dijon après 54 minutes ici au stade Océane.
Allez, à tout de suite dans ce Tipeee Show. On vous attend au 32-16. Encore quelques minutes à passer ensemble puisque le Tipeee Show s'arrête comme tous les lundis à 22h avant l'after, juste derrière. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. RMC, le lundi, 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Toujours comme tous les lundis sur RMC, le Tipeee Show avec Tony Parker depuis San Antonio et vous au 32-16. Comme promis, dans un instant, l'actu de la NBA avec également le Super Bowl à l'honneur pour la fin d'émission. Mais l'autre actualité du week-end après le judo, c'était le tennis, puisque nous avons eu à Montpellier une finale 100% française entre Richard Gasquet et Paul-Henri Mathieu. PHM sera avec nous dans quelques instants. Mais avant cela, nouveau crochet par Le Havre, Le Havre-Dijon, la Ligue 2, Christophe Lécuyer.
Oui, à point nommé, François, avec l'ouverture du score. Ici du leader dijonnais, c'est Julio Tavares qui se présente seul face à Fabien Farnol. Cette occasion qui fut la bonne donc pour l'attaquant de l'équipe de Dijon qui réaffirme pour le moment en tout cas sa place de leader au classement de Ligue 2 ce soir. Ici après 57 minutes de jeu, c'est Dijon qui ouvre le score dans ce stade Océane. Dijon qui mène 1-0.
Et donc, comme promis, on parle tennis avec le retour sur le devant de la scène de Paul-Henri Mathieu, finaliste hier face à Richard Gasquet à l'Open Sud de France. C'était hier, Tony.
Salut Paul-Henri, comment ça va?
Salut Tony, ça va, merci, et toi?
Ben ça va, moi en pleine forme, hein. C'est plus pour toi qu'il faut demander, là, c'est une bonne finale quand même contre Richard.
Ouais, non, c'était une bonne finale, alors c'est toujours un petit peu frustrant et décevant de perdre en finale, parce que on se bat toute la semaine pour essayer de remporter le tournoi. Ouais, mais voilà, c'était une bonne semaine malgré tout, et voilà, il faut repartir de l'avant, quoi.
Donc t'as même pas le temps justement de savourer ta finale à Montpellier, parce que tu prends déjà l'avion pour le Brésil, tu vas jouer sur terre battue.
Oui, alors pas du tout, je suis rentré hier soir, j'ai essayé de rentrer ma valise ce matin, je pars ce soir pour Rio, où je vais jouer sur terre battue. Donc voilà, je vais enchaîner Rio et Sao Paulo, donc voilà, donc l'enchaînement est assez rude.
Et c'est pas trop dur, justement, quand on a 34 ans, père de famille, de partir plus tard aussi longtemps.
Bon, c'est pas facile. J'ai un petit garçon, alors forcément, il pose quelques questions quand quand je pars. Il demande quand je vais revenir. Mais voilà, je suis plus proche aussi de la fin que du début. Hein. Je pense qu'il faut aussi profiter de ces moments-là. Voilà, parce que c'est pas éternel. Donc, on essaie de profiter au maximum aussi. Hein.
Bon, en tout cas, après toutes tes galères à cause de tes blessures, je tenais à te féliciter pour ton parcours la semaine dernière et sur les derniers mois, parce que mentalement, t'as été costaud. T'as rien lâché.
Ouais non merci, c'est vrai que c'était pas évident, j'ai eu l'opération du genou hein, qui m'a vraiment tenu éloigné des cours pendant longtemps. Ensuite voilà, j'ai eu plus de problèmes personnels avec la maladie de ma femme qui était très difficile à gérer moralement, donc voilà, je suis content de sortir de tout ça et de reprendre du plaisir sur le cours. Hein.
Qu'est-ce qui a fait que tu as pas lâché et que tu as continué à y croire? Parce que j'imagine que plus d'une fois tu t'es dit bon vas-y j'arrête là.
Oui, c'est pas toi qui vais l'apprendre. Effectivement, comme tout le monde, on a des périodes de doute et des fois où j'ai voulu arrêter, baisser les bras. Mais voilà, pour un sportif de haut niveau, ce qui est difficile, c'est d'arrêter sur blessure, de pas être maître de son destin. Et voilà, j'ai toujours voulu me battre pour essayer de revenir et de décider quand j'allais arrêter et de pas subir les choses. Voilà, de prendre les choses avec envie.
En tout cas, ce qui se passe pour toi depuis plusieurs mois, c'est comme une renaissance, une seconde carrière. Tu viens de gagner 25 places au classement. Aujourd'hui, c'est 68e. Ça touche de nouvelles perspectives là pour la saison à venir.
Ouais, non, complètement. Remonter au classement, ça m'a aussi aidé à pouvoir réintégrer des tableaux principaux. Donc voilà, ça va m'éviter de passer par les qualifs pour faire le planning. Ça va être beaucoup plus facile. Et maintenant, voilà, il faudrait bien réintégrer le top 50 pour pouvoir intégrer tous les gros tournois. Et voilà, pourquoi pas me rapprocher des 30 premiers d'ici la fin d'année.
Bah j'espère pour toi. En tout cas, tu dois jouer combien de temps alors encore?
Je sais pas, c'est vachement difficile à dire. Voilà, je pense que là, tant que je prends du plaisir, tant que je suis en bonne santé, voilà, je vais essayer de pousser au maximum.
Paul-Henri, une petite question sur tes destinations là, puisque tu vas à Rio, Sao Paulo, c'est loin, mais en allant à Rio, il n'y a pas dans le coin de la tête quelque part, je sais pas, un petit Jeux Olympiques, quelque chose, une petite place, créer quelque chose avec un partenaire pour le double, je sais pas.
Non, moi je suis pas un grand joueur de double. Enfin, j'ai jamais vraiment consacré ma carrière au double. Non, pas trop. Et en fait, j'avais prévu de jouer à Rio et Sao Paulo bien avant mon résultat à Montpellier. Voilà, je voulais jouer sur terre battue aussi pour préparer au mieux la saison sur terre battue avec Roland Garros qui se profile. Je me tiens à mon programme du départ.
Sans arrière-pensée. Une dernière question, Paul-Henri, avant de te laisser sur ce qui se passe au Brésil actuellement. On parle beaucoup de choses extra-sportives puisqu'il y a le virus Zika qui sort du Brésil et qui est en train de contaminer un peu la planète entière. Est-ce que tu y vas avec des a priori, des doutes, quelque chose, ou c'est quelque chose qui te passe complètement à côté parce que c'est des choses dont il faut pas vraiment penser quand on est sportif?
Bon, on y pense forcément un petit peu. Après, il y a des précautions à prendre. Après, on est obligé de faire avec également, parce que sinon, on ne part plus nulle part. Mais effectivement, voilà, prendre des précautions, voir comment ça se passe là-bas, parce que c'est vrai qu'on voit ça un petit peu aux infos. Ensuite, je pense qu'il faut être sur place pour se rendre compte de la réalité sur place.
Merci Paul-Henri d'être venu dans ce Tipeee Show sur RMC.
Avec plaisir.
Merci Paul-Henri.
Avec plaisir. À bientôt.
Et bon tournoi de Rio et bon tournoi également sur terre battue avec Sao Paulo et les différentes échéances qui arrivent très vite. Dans un instant, comme promis, on parle de l'NBA, on parle du Super Bowl également, mais des tours encore une fois par Le Havre-Dijon. Christophe Lécuyer, ça continue?
Eh oui, il se passe des choses au Havre ici, François, 62 minutes de jeu et 2-0 désormais pour cette équipe dijonnaise qui a donc doublé le score en l'espace d'une minute, toujours par ce diable de Tavares qui a signé en l'espace d'une minute. Donc c'est 9e et 10e but personnel cette saison, à chaque fois parfaitement lancé en profondeur. Il trompe la vigilance de Fabien Farnol, le leader dijonnais qui semble faire le break ici à moins d'une demi-heure maintenant de la fin de la rencontre. Dijon mène au Havre 2-0.
Allez, à tout à l'heure, la suite de cette rencontre dans l'after, dans quelques instants. Comme promis, on repart aux États-Unis.
Oui. RMC, US Sports News. Tony Parker.
Avec la tête de la nuit, Tony, j'imagine que tu étais devant ton écran ou pas contre Carolina. Les Panthers qui ont donc perdu face aux Broncos 24-10. C'était la finale du Super Bowl. Gros événement. Lady Gaga qui chante l'hymne américain. Gros show à la mi-temps. Qu'est-ce que tu en as retenu, Tony, de ce Super Bowl?
Bah, comme d'habitude, un gros show, hein. C'était extraordinaire, hein. Comme t'as dit, Lady Gaga, c'était pas mal quand même.
C'était pas mal. C'était propre. C'était correct.
C'était mal, exactement. C'était très bien pour les nationales. Et puis après, bah, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, à la mi-temps, ils ont fait un show. Et voilà, globalement, j'étais content pour Peyton Manning, hein, pour les Broncos, parce que je trouve que Peyton, il a une carrière exemplaire. Et il a eu des, on va dire, des match-ups difficiles avant dans les Super Bowls où il est tombé sur des grosses équipes des Patriots. Et donc, si c'était son dernier match, je ne sais pas s'il a annoncé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, terminer sur un Super Bowl, pour lui, c'est génial.
Ouais, tu nous en parlais il y a quelques temps déjà. C'est une vraie idole, c'est une vraie icône. Et l'histoire, et les Américains aiment bien ça en général, que après.
Ouais, exactement. Hein. Exactement, voilà. C'est la belle histoire et c'est une super fin pour lui. Et surtout comment s'est passée cette saison, quoi. Il commence la saison, après le coach il le met sur le banc, il a des petites blessures, et après il revient et il va au Super Bowl et il gagne. Enfin, elle est trop bien l'histoire.
Elle est belle. Peyton Manning donc victorieux avec les Broncos de Denver face aux Panthers de Carolina, 24-10. Sur les highlights, on voit que face à Peyton Manning, il y a le quarterback d'en face, Cam Newton, qui a été complètement éteint, étouffé. C'est aussi ça la beauté de Peyton Manning dans cette finale, c'est qu'en plus en face on a vu un quarterback qui a quasiment jamais vu le jour.
Bah en fait Denver, ils ont une très très grosse défense et c'était un peu la clé du match, hein. Il fallait arrêter Cam Newton, il fait une super saison de MVP, c'est l'avenir, hein, du foot américain, il est très 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 fort, mais là sur ce match là Denver, ils ont réussi à le limiter, et donc c'est pour ça qu'ils sont champions.
Théo est avec nous au 32-16, et justement Théo voulait revenir sur Cam Newton, le joueur des Panthers. Salut Théo.
Salut tout le monde. Oui, je voulais revenir sur Kane, comme il a été élu MVP saison. Moi je pensais voir un grand Cam Newton hier soir, et puis finalement il n'était pas là, il est passé complètement à côté de son match. Et je voulais un peu savoir les répercussions qu'il y a aux États-Unis du fait de sa défaite et du fait aussi qu'en conférence de presse, il n'a pas eu l'étoffe d'un champion comme l'a pu faire un Tom Brady quand il a perdu ou un Peyton Manning quand il avait perdu.
Je t'avoue que j'ai pas trop regardé les médias. Je t'avoue que j'ai juste regardé le match et j'ai pas trop regardé la suite.
Mais pourquoi tu dis Théo?
Il va apprendre de ça. Hein. Il est jeune. Hein. De toute façon, il sera de retour et je suis sûr qu'il gagnera un Super Bowl un jour.
Pourquoi tu dis que Cam Newton n'a pas été digne d'être MVP par rapport à la conf de presse d'après match?
Parce que quand t'es un grand champion comme l'est devenu Cam Newton, parce qu'aujourd'hui il fait partie des grands quarterbacks de la ligue, tu te dois d'être un minimum cohérent dans tes propos et digne. Sur la conférence de presse, moi que j'ai suivi un peu ce matin, j'ai revu les articles, c'est une phrase, c'est ils ont été meilleurs que nous, ils ont bien joué. Et pour moi, ça fait pas partie des grands champions. Peyton Manning, quand il a perdu ses différents Super Bowls, il est resté concentré, humble, et voilà, il était quand même un peu plus présent que qu'a pu le faire Cam Newton. Après, il a perdu, tout le monde s'attendait au Dame Nation, tout le monde était à fond derrière lui, Steph Curry a fait leur entrée. C'est voilà, vrai. Peut-être il était un peu trop... trop médiatisé sur ces deux dernières semaines et il a flanché. Okay. Mais après, comme dit Tony, je pense qu'il gagnera un Super Bowl dans sa carrière. Il mérite en tout cas.
Il apprendra et puis il était peut-être déçu. Merci Théo d'être venu au 32-16. On enchaîne avec Adam qui lui voulait revenir sur la bonne saison en NBA de Rudy Gobert. Salut Adam.
Salut, comment ça va?
Très bien. On t'écoute Adam pour parler du Jazz.
Déjà avant tout, je voulais faire une félicitation à Tony déjà pour sa femme. J'espère qu'il aura plein de bonheur encore dans sa vie. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis un grand fan de tous les joueurs d'équipe de France. Je regarde tous les matchs des Spurs, des Magic, des Jazz, etc. Et je regarde en pas mal Rudy Gobert. Ça, je l'adore. Je sais pas pourquoi je l'adore. J'ai l'impression que c'est mon fils. Et le mec, j'ai l'impression qu'on ne lui fait pas assez confiance au niveau offensif. Après, peut-être que je suis un peu trop subjectif, c'est peut-être mon côté un peu cocorico, mais j'ai l'impression qu'il manque très peu de paniers. Il est toujours là en sortie de pick and roll à lever les bras comme un malade et on lui lâche le ballon. Le mec, je me dis pourquoi ils font à ce point, enfin pas assez confiance sur le plan offensif, alors qu'on est chez les Jazz, qu'on n'est pas chez les Spurs. Je suis sûr qu'il pourrait mettre beaucoup plus de paniers que s'il en met. Donc j'ai un peu de la peine. Donc c'est peut-être parce que je suis pas du tout
objectif. T'es dur, Adam.
Et je voulais savoir un petit peu quel était votre avis par rapport à ça.
Tony.
Je pense que Rudy, de toute façon, il a le temps offensivement. Tu sais, les grands, ils mettent un peu plus de temps pour devenir mature, on va dire, en attaque. Parce que défensivement, bon là, il a rien à dire. Hein, c'est un des meilleurs de la NBA. Et en attaque, voilà, ça va prendre un peu de temps. Après, il y a déjà des joueurs quand même qui sont forts en attaque dans son équipe. Donc c'est vrai qu'il n'a pas trop de ballons, on va dire. Parce que on va dire l'option numéro un, c'est Gordon Hayward. Mais ça va prendre du temps. Mais il est jeune encore et je pense qu'il va encore progresser dans ce secteur-là.
Et puis Adam, il le dit un peu lui-même, hein, Rudy. Il dit faut que je progresse en attaque. C'est mon point faible. Il faut que je me trouve un petit shoot à moi, une petite position pour en faire ma marque de fabrique et être totalement incontrôlable des deux côtés du terrain.
Non, bah après moi c'est mon point de vue quand je le vois comme ça avec agiter ses bras à chaque fois qu'il sort du pick and roll, je me dis mais lâchez-lui le ballon, putain, il va nous claquer un bordel, pourquoi vous lui lâchez pas ce ballon?
T'inquiète, tu verras ça cet été en équipe de France.
J'espère bien, et d'ailleurs je suis très 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 heureux de la décision de Tony, même si quoi qu'il ait décidé, on aurait respecté sa décision, parce que de toute façon je pense que s'il vient pas, le premier que ça emmerdera ce sera lui. Mais globalement, je suis très très content qu'il ait pris cette décision et puis on sera là pour les supporter.
Salut Adam.
Comme on était là à Lille. Allez.
Bon
bye
courage.
Bye.
À très bientôt. Merci Adam d'être fidèle au Tipeee Show. Pour terminer, Tony, il y a une question qui revient sur l'hashtag RMC Live. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ton coéquipier Manu Ginobili qui a pris un coup de genou entre les jambes cette semaine, opération d'un testicule, plusieurs semaines d'absence.
Ouais, c'est ça, il sera pas là, ils ont dit de 4 à 6 semaines, donc ça va être quand même long de jouer sport là sans lui, parce que c'est quand même un joueur majeur de notre équipe, et donc voilà, il a pas eu de chance, hein. Il s'est pris un coup de genou et il s'est fait opérer le soir même en urgence, donc c'est pas cool. Ouais.
C'est pas cool. Tony, on te souhaite une bonne semaine. Un petit peu de vacances,
bientôt,
puisque c'est le All-Star
bientôt,
Games week-end.
Hein,
break.
Et à la semaine prochaine.
Rendez-vous 21h, 22h, le Tipeee Show. Rendez-vous comme tous les lundis sur RMC, comme tous les lundis également après le Tipeee Show. C'est l'after et comme tous les lundis, c'est Gilbert Bribois jusqu'à minuit. Gilbert, salut.
Salut François, on est là jusqu'à minuit en effet avec l'after. Comme tous les lundis, les prises de position de Florent Gautreau, Daniel Riolo après le week-end de Ligue 1. Et les drôles de dames qui viendront nous décrypter toute l'actu foot européenne. Et puis la Ligue 2, bien sûr, on suit le match entre Le Havre et Dijon. Christophe Lécuyer, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à tous. 2-0 donc ici au Stade Océane pour l'équipe de Dijon. Tavares qui a fait quasiment tout le boulot, hein, l'espace d'une minute, 57e et 58e tout à l'heure. Dijon qui prend seul pour le moment la tête du classement de Ligue 2. Il reste un gros quart d'heure à jouer.
Merci à toutes. Suite dans l'after avec vous au 32-16.